Bonsoir, la mort d'une légende du rock, Charlie Watts, avec 80 ans, dont presque 60 avec les Rolling Stones. Imperturbable batteur, il était la colonne vertébrale du groupe. Vous entendrez l'émotion de Philippe Manœuvre qui a suivi les Stones tout au long de sa carrière. Les États-Unis s'apprêtent à quitter l'Afghanistan pour de bon. Il ne devrait plus y avoir un seul soldat américain sur le sol afghan après le 31 août, confirme Joe Biden, à condition que les talibans coopèrent pleinement jusque-là. Nous serons en direct des États-Unis dans un instant. Les incendies à peine maîtrisés, le Var surpris par des inondations éclairs. Il est tombé jusqu'à 3 mois de pluie en l'espace d'une heure cet après-midi. De nombreuses routes sont inondées, des riverains évacués. Une troisième dose de vaccin contre le Covid, elle sera proposée dès le mois prochain aux personnes les plus fragiles, puis aux plus de 65 ans. La Haute Autorité de Santé a rendu ses recommandations. Attention à la hausse des prix dans votre budget de rentrée. Les carburants, les fruits et légumes et bientôt les pâtes. Pas de panique, veut rassurer la grande distribution. Vous entendrez le patron de Système U. Et puis à suivre après le journal, votre point complet sur la bourse et l'invité écho. On prendra ce soir la direction des salles de sport et de fitness et on verra si l'affluence habituelle de la rentrée est bien au rendez-vous. Enfin, comme chaque soir, bien sûr, un premier coup d'œil avant 22h30 au une de vos quotidiens de demain matin.
Europe 1.
Il va manquer aux Rolling Stones, oui, aussi sûrement qu'il va nous manquer à tous. Charlie Watts, le batteur historique des Stones, est mort à Londres à l'âge de 80 ans. Il avait rejoint les Stones en 1963. Il était connu pour être l'élément stable dans les batailles d'égo au sein du groupe. Sur scène, il brillait par sa régularité, par son économie de moyens. Sa disparition laisse un vide immense pour le journaliste rock Philippe Manœuvre.
Charlie Watts, c'est le moteur du groupe. Voilà, c'est lui qui faisait avancer la machine, la locomotive Rolling Stones. C'était un son très sourd, fracassant. C'était un batteur qui détestait les effets, qui n'en rajoutait pas. Il avait une des plus petites batteries de l'histoire du rock. Mais il en tirait un son absolument formidable. Et je peux vous dire que c'était un bonhomme formidable. Je suis désolé, mais c'est vraiment dur. C'est très dur. C'est terrible. Les Rolling Stones ont tenu tellement longtemps, 59 ans. Et Keith Richards avait dit le but des Rolling Stones, c'est maintenant, c'est de rester tous en vie, tous les quatre, pour fêter les 60 ans du groupe en 2022. Ça ne sera pas comme ça. Et là, je crois que ce soir, la mort est venue nous taper sur l'épaule en pleine vacances, au moment où personne ne s'y attendait. Alors qu'il y a une grande exposition Rolling Stones qui a cartonné tout l'été à Marseille. Voilà, c'est terrible, c'est terrifiant.
Voilà, l'émotion de Philippe Manœuvre et Satisfaction ce soir à l'annonce de la mort de Charlie Watts, légende du rock, batteur emblématique des Rolling Stones et véritable métronome du groupe. Charlie Watts avait 80 ans, dont presque 60 ans, 60 années de carrière avec les Rolling Stones. Il n'y aura plus de troupes américaines en Afghanistan après le 31 août. Joe Biden maintient cette date butoir à condition, prévient-il, que les talibans coopèrent en bon ordre à l'aéroport de Kaboul. Les pays membres du G7 étaient réunis cet après-midi pour un sommet virtuel sur la situation en Afghanistan, alors que les évacuations se poursuivent. Alexis Guilleux, vous êtes correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alexis, les Occidentaux ont toujours du mal à parler d'une seule voix.
Oui, c'est d'abord Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui s'est exprimé après cette réunion du G7. C'est lui qui assure la présidence tournante en ce moment. Les pays membres demandent aux talibans de garantir un passage sûr pour tous ceux qui veulent quitter l'Afghanistan jusqu'au 31 août et au-delà. C'est-à-dire que c'est cette date qui fait l'objet de débats et d'un bras de fer entre occidentaux. Côté européen, on considère impossible de terminer l'évacuation avant le 31 août. Et l'objectif de cette réunion, c'était bien de convaincre Joe Biden de maintenir ses troupes à l'aéroport un peu plus longtemps, car sans soldats américains, impossible de poursuivre ce pont aérien en toute sécurité. Joe Biden n'a pas plié. La mission de l'armée américaine est en voie d'être terminée au 31 août, explique la Maison-Blanche dans un communiqué, à condition donc que les talibans continue de coopérer en permettant l'accès à l'aéroport. Le président américain, lui, n'a pas encore pris la parole. C'est seulement un communiqué écrit qui a été publié. Sa conférence de presse a été repoussée tout au long de la journée. On a désormais 4 heures de retard, signe de l'intense pression que subit la Maison-Blanche. Joe Biden a tout de même demandé au Pentagone de préparer des plans de secours pour repousser ce retrait si nécessaire, car de leur côté, sur le terrain, les talibans resserrent leur étau sur l'aéroport international. Le maintien des troupes américaines au-delà du 31 août serait pour eux une ligne rouge à ne pas franchir. Et désormais, ces mêmes talibans ne veulent plus que les Afghans quittent le pays. Seuls les étrangers sont autorisés à se rendre à l'aéroport.
Merci Alexis Guy à New York pour Europe 1. Effectivement, les talibans s'inquiètent d'une fuite des cerveaux. Ils demandent aux Occidentaux de n'évacuer d'Afghanistan que les ressortissants étrangers et surtout plus les Afghans les plus qualifiés. Ce soir, Washington annonce avoir évacué en tout plus de 4000 ressortissants américains d'Afghanistan. De son côté, le Quai d'Orsay a identifié 62 Français restants à évacuer. Un réfugié afghan soupçonné de lien avec les talibans se trouve toujours ce soir en garde à vue après avoir rompu son assignation à résidence en France. Témoignage sur Europe 1 d'un journaliste qui se trouvait en cours d'exfiltration du territoire afghan lorsqu'il a vu cet homme se fondre parmi les candidats au départ. Mustapha Mohamed raconte.
Lors de notre exfiltration depuis l'ambassade jusqu'à l'aéroport, il est monté dans un des véhicules. On a été arrêté une fois assez longtemps par les talibans qui essayaient de nous empêcher de partir à l'aéroport, mais en réalité ils négociaient pour pouvoir envoyer leurs membres aussi. Donc à l'approche de l'aéroport, il a rendu son arme à ses amis, à ses collègues, et il est monté comme si de rien n'était. Il est rentré à l'intérieur. C'est comme ça qu'il s'est invité au voyage. J'en ai parlé aux policiers qui m'ont présenté aux membres du renseignement intérieur pour parler de cette personne, parce que j'étais sûr et certain et que pour moi c'était pas normal qu'il fasse partie du voyage, qu'il se rende en France, parce que il combat toutes les valeurs universelles, démocratiques et les valeurs françaises en Afghanistan. Il s'oppose à tout ça, mais en même temps, il avait envie d'en profiter, de venir, de quitter l'Afghanistan et venir en France.
Mustapha Mohamed avec Elie Midez. Les incendies à peine maîtrisés dans le Var, ce sont cette fois des pluies diluviennes qui ont surpris la population cet après-midi. Entre orages de grêle et averses records, il est tombé jusqu'à 3 mois de pluie en l'espace d'une heure. 140 pompiers sont mobilisés ce soir à Pignan dans le Var, dans un secteur particulièrement touché par ces intempéries. Dominique Lin est le maire du Luc, à quelques kilomètres de là. Il est aussi le président du service départemental d'incendie et de secours. La brutalité de ces intempéries, dit-il, n'a laissé à personne le temps de réagir.
Alors la situation est la suivante. À 15h, on a donc eu un orage d'été qui est resté stable sur la ville de Pignan. En 1h30, on a eu 155 mm d'eau qui sont donc tombés. Actuellement, 140 sapeurs-pompiers sont donc engagés. Nous avons eu 19 mises en sécurité donc à effectuer. Et nous avons donc ouvert une salle où actuellement il y a 14 personnes dans cette salle en attente. Aujourd'hui, nous déplorons des inondations dans des lieux publics, comme donc le gymnase, la municipalité et les écoles. La pluie est passée et donc il va y avoir donc des opérations de pompage et de nettoyage.
Sur le front du Covid, les contours de la campagne de rappel vaccinal se précisent. Les populations les plus vulnérables auront accès à cette troisième dose de vaccin dès le 1er septembre. Dans son avis, la Haute Autorité de Santé recommande un élargissement progressif aux plus de 65 ans et à toutes les personnes à risque, Océane Théard.
Oui, ce que la Haute Autorité de Santé propose, c'est un rappel de vaccination pour les personnes de plus de 65 ans et pour les personnes atteintes de comorbidités, celles qui souffrent par exemple de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Le but, c'est d'éviter une baisse d'efficacité du vaccin pour ce public plus fragile. Alors concrètement, comment s'organiserait cette troisième injection ? Réponse avec l'infectiologue Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique de la Haute Autorité de Santé. Elle était l'invitée d'Europe Midi.
Ceci devrait se passer de façon assez simple. Ce sont des personnes qui, de manière générale, sont vaccinées tous les ans contre la grippe. Et donc, au moment où on leur fera la vaccination grippale, eh bien, on pourra aussi leur faire la vaccination, le rappel de vaccination Covid.
Pour le gouvernement, l'objectif, ça reste la vaccination au plus vite des plus de 80 ans. Olivier Véran parle même d'une prise de rendez-vous dès lundi pour des injections à partir du 1er septembre. Mais pour mettre en œuvre ce programme, il faut encore obtenir l'aval de l'Agence européenne du médicament.
Et au total, 18 millions de personnes sont éligibles à cette troisième dose de vaccin. Le protocole sanitaire à l'école soulève des inquiétudes à une semaine de la rentrée des classes. Le premier syndicat du primaire, le SNUIPP, demande des règles plus strictes que celles annoncées pour barrer la route au virus à l'école où les enfants ne sont pas encore vaccinés. Il réclame des tests salivaires hebdomadaires, port du masque pour les élèves, y compris dans la cour de récréation. Guylaine David, la porte-parole du SNUIP, demande à Jean-Michel Blanquer de revoir sa stratégie.
Pour nous, le niveau 2 du protocole n'est pas suffisant puisqu'on est sur un niveau allégé par rapport à juin dernier, alors qu'en juin dernier, le variant Delta n'était pas présent et qu'on a un taux d'incidence sur cette rentrée qui est beaucoup plus important qu'en juin. Ça veut dire qu'il faut renforcer, par exemple, l'angle mort des cantines, la restauration scolaire, où on n'a pas actuellement de règles de brassage bien définies. Alors, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est que la question du masque en extérieur soit réétudiée. Les élèves dans la cour de récréation sont très proches parce qu'ils se retrouve après une journée de classe et on sait que le variant Delta est très problématique aussi à l'extérieur parce qu'il peut se diffuser. Sure. Sur la question du dépistage, il faut changer la stratégie des tests. On ne peut pas fonctionner comme l'année dernière, pas forcément tester que les enfants lorsqu'il y a des clusters, mais il faudra tester régulièrement, c'est ce que disent aussi les scientifiques, très régulièrement les enfants pour éviter la contamination.
Guylaine David avec Virginie Riva. Dernier résultat d'une étude américaine qui n'est pas faite pour nous rassurer. Depuis que le variant Delta domine aux États-Unis, l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna a chuté de 91 à 66%. L'État et les élus locaux cherchent les clés contre l'explosion des règlements de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille après le triple meurtre du week-end dernier. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, promet l'arrivée de magistrats supplémentaires. Plusieurs élus et professionnels avaient réclamé davantage de moyens. Ils ont été entendus, assure le ministre de la Justice.
Il n'y a pas de recette miracle. Il y aura d'ici le mois de septembre 11 magistrats qui seront à pied d'œuvre. Et puis je suis aussi extrêmement attentif à ce que les chefs de juridiction qui sont ici à mes côtés ont fait remonter aux chefs de cour, souhaitent encore des magistrats supplémentaires et c'est favorablement que je répondrai dans les jours qui viennent à ces demandes parce qu'elles sont légitimes et nécessaires. Et pour que vous le sachiez, monsieur, ça ne me préoccupe pas d'aujourd'hui. Au mois de mars, j'ai demandé à ce qu'il y ait un audit réalisé par l'inspection générale de la justice sur la situation marseillaise pour essayer de la régler au mieux et le plus efficacement possible.
Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Le panier de fruits et légumes a vu son prix grimper depuis le printemps dernier. Les gelées tardives à la pompe, les prix des carburants ont flambé de 15% depuis le début de l'année. Les tarifs du gaz cet été et bientôt les paquets de pâtes avec les pénuries de blé. Mais le secteur de la grande distribution se veut rassurant. Tout est fait pour ne pas répercuter les hausses de prix de matières premières dans les rayons, promet Dominique Schelcher, président de Système U.
Concrètement, on n'en est pas encore à la traduction de ces hausses à l'achat au niveau des clients. Nous sommes en train de discuter avec nos fournisseurs et je dirais aujourd'hui pas de panique, les choses vont progresser doucement, je dirais. Si vous voulez, rappelons tout d'abord que depuis le début de l'année, les prix dans la grande distribution française n'ont pas augmenté, voire ont même légèrement baissé. Et ça, c'est le travail de nos enseignes, de Système U en particulier, de faire l'amortisseur pour les consommateurs. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés de pouvoir d'achat de nombreux Français et nous ferons tout pour amortir ces hausses on trouvera des solutions pour ne pas impacter grandement le consommateur.
Dominique Schelcher, le président de Systémie, au micro de Romain Desarbres. Les Jeux paralympiques officiellement ouverts par l'empereur du Japon aujourd'hui à Tokyo. Plus de 500 médailles d'or en jeu. 4400 para-athlètes disputeront les épreuves à partir de demain et jusqu'au 5 septembre prochain. Dans tout cela, la France espère briller avec un beau contingent d'athlètes et un objectif, faire mieux qu'à Rio en 2016. Simon Rubin.
Après les 28 médailles remportées aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, la France souhaite faire encore mieux avec 35 médailles visées pour intégrer le top 10 des nations paralympiques. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Alors les Bleus seront portés notamment par la très polyvalente Marie-Amélie Le Fur, engagée en athlétisme sur le sprint, le 400 mètres, le saut en longueur, et médaillée déjà à 8 reprises depuis ses premiers Jeux à Pékin en 2008. C'est elle la star de la délégation. Avec 138 athlètes, la France est engagée dans presque tous les sports, mais au-delà des médailles, il y a un enjeu essentiel pour l'avenir, créer un engouement populaire pour porter toutes les disciplines, rappelle Stéphane Houdet, tennisman et porte-drapeau.
À la suite des Jeux de Londres, on avait pu vivre les frémissements de l'engouement du monde entier. Depuis, les demandes de presse et les retransmissions ne font qu'augmenter. Je pense que c'est aussi une évolution de la société. Nous avons à cœur de porter haut les couleurs du drapeau, de faire résonner quelques Marseillaises.
Créer un engouement populaire et aussi préparer les jeunes athlètes qui seront déjà présents à Tokyo en vue des Paralympiques de Paris 2024 qui sont déjà dans toutes les têtes.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Le temps pour demain, Marlène Duret, c'est un programme plutôt enthousiasmant, calme, sec et ensoleillé.
Et oui Alexandre, l'anticyclone positionné sur les îles britanniques nous garantit du beau temps. Il faudra simplement attendre que les plaques de grisaille présentes dans le Cotentin et le nord de la Bretagne se dissipent. On va se réveiller sous de belles éclaircies dans les Alpes et même du plein soleil dans les Pyrénées, mais l'ambiance va changer en cours de journée et des averses s'accompagnant parfois d'orages pourront se déclencher l'après-midi. Même chose d'ailleurs du côté de la Corse. Côté vent, une petite bise à noter qui va apporter un peu de fraîcheur par moment et puis le Mistral aussi, mais seulement le matin dans le sud-est à 50 km à l'heure. Les températures minimales seront en baisse mais les maximales seront en légère hausse, le plus souvent d'un degré. On attend 21 à Boulogne-sur-Mer, 23 sur la pointe bretonne ainsi qu'à Rouen, 24 en Alsace, 25 en région parisienne ainsi qu'en Touraine, 27 à Nantes, 29 en moyenne dans le sud-ouest et ça peut monter jusqu'à 31 degrés dans l'arrière pays méditerranéen.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître, à suivre l'invité éco d'Emmanuel Duteil et puis on se penchera sur les premières unes de la presse demain matin. A tout de suite.
Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Et top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com ce soir sur Europe 1. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
La bourse de New York gagne encore du terrain ce soir. L'optimisme sur les progrès dans la vaccination a dopé les indices.
Oui, c'est du vert et même un nouveau record pour le Nasdaq. Il gagne 0,52% à 15 019 points. Le Dow Jones grappille de son côté un tout petit 0,09%. L'optimisme domine donc grâce aux avancées dans la vaccination contre le coronavirus. Le vaccin de Pfizer et BioNTech a reçu une autorisation définitive hier aux États-Unis. Les Américains pourront avoir une troisième dose de vaccin en septembre. Et un secteur en profite plus particulièrement, c'est celui des loisirs. L'agence de voyage en ligne TripAdvisor monte de 3,7%, plus 3,8% pour la compagnie American Airlines. On peut aussi citer l'opérateur de croisière Carnival qui grimpe de 4,5%. Le pétrole aussi poursuit sa remontée et soutient Wall Street. Le WTI gagne encore 3% à New York et les géants du secteur en profitent là aussi. ExxonMobil et Chevron gagnent environ 1%.
Oui, mais Wall Street met donc de côté, en tout cas pour le moment, les craintes liées à la politique de la Fed.
Voilà, les marchés se sont fait peur la semaine dernière et ils craignent que la réserve fédérale américaine devienne moins généreuse qu'au cœur de la crise, peut-être avant la fin de l'année. Alors, on devrait en savoir plus en fin de semaine avec le symposium de Jackson Hole. C'est la grande réunion des banquiers centraux de la planète. Le discours le plus attendu, c'est bien sûr celui du patron de la Fed, Jerome Powell. Il est programmé vendredi. Les investisseurs guetteront des indices sur le calendrier de ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs par la Banque centrale américaine.
Alors à Paris, la séance avait bien démarré pour le CAC 40, mais l'indice a finalement perdu quelques points ce soir.
Oui, le CAC 40 repère un peu de terrain. Moins 0,28%, 6664 points. Il est plombé par ses grandes valeurs, notamment le luxe qui fait le yo-yo depuis quelques jours. Le numéro 1 mondial LVMH perd 2%. Hermès repère 1,6%, moins 0,4% pour Kering. C'est nettement mieux pour le secteur du tourisme. Il parie sur une accélération de la vaccination contre le Covid, comme à Wall Street. Très belle séance donc pour le groupe hôtelier Accor, en hausse de 3,4%, et pour Air France KLM, qui bondit de 5,8%. Ailleurs en Europe, les indices ont terminé dans le désordre. Londres gagne 0,2, plus 0,3 pour Francfort. C'est du rouge, en revanche, pour Madrid, moins 0,2, et pour Milan, moins 0,1. Et à Paris, le CAC 40 perd 0,3%, 6664 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. L'invité écho sur Europe 1, Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, était l'invité ce midi de La France qui bouge. Il répond aux questions d'Emmanuel Duteil et d'Elisabeth Assayag.
Bonjour Adrien Perrol.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Et très bien, merci beaucoup.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans La France bouge. Vous êtes le directeur général de Bureau Vallée, numéro 1 français de la papeterie, du matériel de bureau, 360 magasins partout en France. La rentrée scolaire, c'est près de 40% de votre chiffre d'affaires, donc c'est un moment important. Comment se présente, Adrien Perrol, la rentrée scolaire ? Est-ce que les clients sont déjà là ?
Écoutez, oui, ils sont là. Par rapport à l'année dernière, cette rentrée, elle est beaucoup plus sereine. Quelques éléments clés de changement par rapport à l'année dernière. Moi, j'ai vu à la fin du mois de juin des magasins pleins de parents avec leurs enfants préparer en avance les fournitures scolaires. Ça, c'est le premier changement par rapport à l'année dernière où ça s'était fait extrêmement tardivement.
Ça s'explique aussi parce que là, les parents ont eu les listes scolaires au moment où l'école s'est arrêtée.
Oui, et puis une certitude que cette rentrée aura lieu. Donc c'est bien, ça nous permet aussi d'étaler le flux et d'avoir les produits dans nos rayons. Un autre élément très changeant par rapport à l'année dernière, c'est l'explosion du marché du cartable, de la maroquinerie scolaire. On est sur un plus 50% par rapport à l'année dernière.
Plus 50%?
Ouais, c'est beaucoup. Hein.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est surtout comment ça s'explique.
En fait, l'année dernière, les parents n'avaient, plutôt les enfants, avaient beaucoup moins utilisé leur cartable. Donc, ça n'avait pas fait des vols planés pendant la moitié de l'année.
Ils avaient gardé le même cartable
exactement,
sur les deux ans.
Exactement.
D'accord.
Okay. Et 50%, c'est quand même impressionnant. C'est historique, j'imagine.
C'est historique, avec quelques grosses tendances. Les animaux et principalement les chats qui cartonnent en licence. Il n'y a pas eu de grosses sorties de films. Les enfants sont un peu influencés par ça.
Et puis, un leader, le sac à dos ISPA, qui reste une grosse partie des sacs à dos.
Pour les collégiens, là, plutôt.
Ouais, plutôt
collégiens, lycéens.
Ouais, c'est ça.
Si on prend l'exemple du cartable, plus 50% parce qu'on l'avait moins abîmé. J'imagine que l'année dernière, il y a aussi beaucoup de familles qui avaient écluser le stock de l'année d'avant. Est-ce qu'on peut parler d'une rentrée, du coup, historique, parce qu'on refait véritablement le stock cette année ? Parce qu'on repart sur une rentrée, on croise les doigts, a priori normale.
Les 15 prochains jours vont être déterminants. Malgré tout, sur le marché de la rentrée des classes, tout acteur confondu, on est sur une rentrée des classes qui est historique en termes de croissance.
C'est-à-dire qu'on peut dire que chez Bureau Vallée, je rappelle que vous êtes le leader français de la papeterie et de tout ça, donc vous êtes vraiment l'acteur majeur. On peut dire que ce sera la meilleure rentrée de toute l'histoire de Bureau Vallée depuis la trentaine d'années que vous existez.
Oui, on peut le dire, Emmanuel. Mais tous les ans, c'est la meilleure rentrée. Mais là, cette année, elle va être très, très bonne.
Mais est-ce qu'on paye plus cher cette année dans vos rayons? Puisqu'on n'arrête pas d'entendre partout que tout augmente. Est-ce que c'est le cas aussi du côté de notre facture de rentrée scolaire?
C'est l'inverse qui se passe. Sur les prix de vente, cette année par rapport à l'année dernière, c'est une diminution de 5%. Donc, je parle du marché de la papeterie et fourniture scolaire. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. On peut l'expliquer d'une seule manière, en fait. C'est que les achats sont très anticipés sur ces produits-là. Ils se font un an avant. Et du coup, on n'est pas encore impacté par la hausse des matières premières qui, elles, existent. Les tensions sur les transports qui, eux aussi, sont fous. Et
J'anticipe peut-être, mais ça va être plus compliqué l'année prochaine.
C'est-à-dire qu'on est certain, on va être là aussi très clair, on que l'année prochaine, que... on va au minimum récupérer cette baisse de 5%
ouais,
et sûrement
va être...
beaucoup
non,
plus.
Non, mais ça va être plus compliqué. On va tout faire en tant que distributeur pour faire un peu le tampon de cette hausse, mais ouais, ça risque d'être très, très, très compliqué.
Donc, c'est le moment de faire des stocks, alors ?
C'est le moment de faire des stocks. On en fait nous-mêmes des stocks.
Vous avez acheté plus que ce que vous saviez que vous alliez vendre parce que vous dites, oula, les prix vont tellement augmenter que j'en garde dans mes...
Pas plus tard que ce matin, on passe les consignes d'acheter, acheter, acheter avant que toutes les hausses passent.
À partir de quand ça va bondir ?
À partir de quand ?
Écoutez, à partir de septembre, on a les premières augmentations qui passent avec des
ah
effets.
Ah oui, donc.
Ouais, ouais, non, mais c'est là.
Septembre,
c'est là. Non, mais
c'est
parce
dommage,
que parfois, on l'a sur les fauteuils de bureau. Le prix du transport sur un fauteuil de bureau, parce que là, pour le coup, ce n'est pas fabriqué en France, c'est 10 euros par fauteuil. Donc là-dessus, on est obligé de l'impacter. On a un effet qui est plutôt positif à cette hausse, c'est que sur certains produits, en fait, du coup, ça devient plus avantageux de partir sur des produits recyclés et qui ont un impact moins important. Dans quelques jours, là, on sort une ramette de papier recyclé qui va être moins chère que le produit neuf. Et ça, en fait, c'est cool.
Ça renoue un peu avec votre histoire parce que vous avez misé assez tôt sur le fait d'avoir un petit peu moins d'emballage et c'était intéressant d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique, ça vous permettait d'être plus compétitif.
Oui, c'est tout bête. D'ailleurs, là, j'ai un stylo et une colle en main. Il n'y a pas d'emballage autour de ça. Ça ne sert à rien. Les gens le prennent. S'il en faut deux, ils en prennent deux. Et... il n'y a pas le coût de l'emballage, tout
donc
simplement.
Donc, ça va devenir des magasins en vrac, les bureaux Vallée
On le fait sur de plus en plus de produits. Dès que c'est possible, on le fait et on a été prescripteurs là-dessus. On a demandé à nos fabricants d'enlever l'emballage. Et ça marche. Avec des grands Américains. Et au début, ils nous ont regardés un peu bizarrement. Ils nous ont dit, on ne va pas les écouter, c'est les petits Français. Et puis, ils s'y sont mis également.
Qu'est-ce que représente le Made in France ou au minimum les marques françaises dans vos rayons ?
Alors, on fait on a l'info du Made in France, donc le fabriqué en France. Sur les marchés de rentrée des classes, c'est 70% de produits qui sont fabriqués en France.
70% de ce qu'on achète.
J'ai pas le détail du conçu en France, fabriqué à l'étranger, mais les intercalaires de chez Exaconta, le cahier Clairefontaine,
les trousses aux Bertures,
les agendas, tout ça, c'est fabriqué en France. J'ai pioché ici ou là les principaux besoins que peuvent avoir une fourniture scolaire. Et c'est beau, on peut se féliciter d'avoir une industrie papetière forte et très présente en France.
Mais comment vous l'expliquez que nous, les Français, nous sommes bons dans ce secteur de la rentrée scolaire ? C'est quand même, je trouve ça très inattendu.
Alors, on est bons sur le marché de la papeterie au global. Dans le cas de Bureau Vallée, ces fabricants, ces marques nous ont fait confiance il y a 30 ans quand on s'est lancé. Et du coup, on est resté fidèles à eux.
Ça qui a joué. C'est aussi parce que vous n'avez pas, pour des raisons de prix ou autre, ou de mode, vous n'êtes pas allé voir d'autres qui ne sont pas fabriqués en France. Vous êtes resté fidèle à cet ancrage français.
Écoutez, on a fait une petite parenthèse il y a, je crois, 25 ans. On a essayé les feutres Made in China. On a eu tellement de retours négatifs. Ça ne marche pas à la première utilisation. Qu'on a misé sur ces fabricants français qui ont des produits de qualité, qui ont un rapport de qualité-prix excellent. Et du coup, on ne trouve pas mieux, quoi.
Voilà, Adrien Perrol, le directeur général de Bureau Vallée, répondait aux questions d'Elisabeth Assayag et d'Emmanuel Duteil. Elisabeth, Emmanuel, on vous retrouve tous les deux pour La France bouge de 13h à 14h sur Europe 1. Émission consacrée demain au sport. Septembre enregistre habituellement le plus grand nombre d'inscriptions en salle. Eh bien, on verra ce qu'il en est cette année. Réponse demain 13h, donc, avec le patron des salles de sport et de fitness, Keep Cool.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un coup d'œil à vos unes de la presse sur Europe 1. Je commence avec Libération qui fait pleine page donc, sur l'information de cette soirée, le décès de Charlie Watts, batteur légendaire, emblématique des Rolling Stones. Charlie Watts ne bat plus. Libération fidèle donc à son sens de la formule. Hein. Charlie Watts était le batteur des Stones. Il tire la langue, Charlie Watts, dans sa jeunesse, donc à la une de Libé. Comme un pied de nez à la faucheuse, c'est vrai que les Rolling Stones, on continue à le penser, sont un groupe de rock immortel. Charlie Watts à la une du Figaro également, le batteur des Rolling Stones qui était la pierre angulaire du groupe. C'est vrai qu'il était l'élément de stabilité du groupe entre les batailles d'ego qui déchiraient parfois Mick Jagger et Keith Richards. Le Figaro qui par ailleurs consacre largement sa une à l'autre sujet de ce mardi, l'onde de choc du chaos afghan, nouvelle donne régionale, menace de mouvements migratoires incontrôlés. Le monde s'ajuste à la victoire des talibans et pendant ce temps, eh bien, l'Europe est renvoyée à son impuissance après le retrait américain. L'Afghanistan à la une de la Croix, également la Croix qui s'intéresse à la condition des femmes afghanes tenaillées par la peur de l'oppression. C'est vrai que de nombreuses femmes redoutent que le régime des talibans supprime les libertés qu'elles ont acquises depuis 20 ans. L'urgence, écrit La Croix, est aujourd'hui d'accueillir celles qui sont parmi les plus menacées. À la une de l'opinion, enfin, la primaire à droite et la clé Wauquiez. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes va-t-il se lancer dans la course à l'élection présidentielle? Réponse en principe, dimanche prochain, relève l'opinion. Laurent Wauquiez a convoqué ses troupes pour sa traditionnelle ascension du mont Mézinc chez lui en Haute-Loire. Il devrait se prononcer avant sa marche. 22h30 sur Europe 1, c'est l'heure pour vous de retrouver la libre antenne avec Olivier Delacroix.
Bonsoir. J'imaginais Olivier. Laurent Wauquiez en train de gravir le mont, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je ne sais plus quoi.
Je ne sais pas, moi je pensais à Charlie Watts ce soir.
Oui, vous avez raison, c'est bien plus important et quelle perte. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 23h, mon cher Alexandre.
Avec plaisir, à tout à l'heure Olivier.
À tout à l'heure.